suis John Connor. Si vous écoutez ce message, vous êtes la Résistance.
www.libradio.org.
Et voilà, nous sommes en direct, il est 18h, 18h03 précisément, c'est La Comète à la Banane, c'est Libre Radio et c'est Fréquence Banane. Nous sommes au Festival des Sans Culottes, jour 2. Eh bien, aujourd'hui, nous avons une série de personnes qui vont venir, qui vont s'égrener ici à la radio. Nous allons commencer sous peu avec Philippe Gintre, que l'on est ravi de recevoir. Bonjour à toi et bienvenue, Philippe.
Salut.
Alors, on s'était déjà vu il y a cela longtemps pour plusieurs choses, pour un livre, qui était à l'époque le deuxième livre, c'était « Demain, ça vient ». Et puis pour de la musique également, puisque tu joues également de la guitare.
Ouais.
Voilà, mais on va faire le tour de la question tout à l'heure. Avant cela, je vais quand même annoncer les personnes que nous allons également recevoir ce soir. Alors, à 19h, eh bien, ce sera Audrey pour l'association Interaction, les personnes intersexes en Suisse romande. Suivra une projection pendant laquelle un podcast geek, pourrait-on dire, sera diffusé. Et nous reprendrons l'antenne ensuite avec, a priori, si tout le monde tient le coup, parce qu'en ce moment, les gens tombent malades et c'est bien normal. Et du coup, on a des désistements dernière minute, mais a priori, ce serait avec des personnes de l'École Vivante de Genève. Donc, l'École Vivante, c'est Pédagogie Sudbury. C'est, disons, comment dire, c'est pas Steiner, non, c'est plus Montessori, mais porté vraiment au nu. La pédagogie, donc une pédagogie alternative et progressiste, pourrait-on dire. On parlera de tout cela. Et puis, peut-être, on ajoute, si on a un petit peu de temps, la manivelle, qu'on essaye de lui trouver une fenêtre, parce que, eh bien, hier, on a dû malheureusement annuler. La manivelle, le concept est tellement original qu'on a vraiment envie d'arriver à faire cette interview. C'est une bibliothèque des objets, là, où plutôt que de... Et je m'adresse à toi également, Phil, puisque tu es bibliothécaire.
Je travaille en bibliothèque,
oui.
Disons.
Voilà, ok. C'est la bibliothèque des objets. Plutôt que d'emprunter un livre, on emprunterait un outil dont on n'aurait besoin qu'une fois dans sa vie, une perceuse ou quoi, plutôt que de l'acheter. Il y a cette forme de mutualisation qui, j'en suis sûr, te touche également. Voilà pour le sommaire de cette émission. Nous sommes ensemble, a priori, pour le direct jusqu'à 21h. Et puis après, on verra si on continuera ou pas hors direct, puisque ça, c'est évidemment la tranche horaire que l'on a à Fréquence Banane. Et puis demain, encore une journée de radio où là, l'horaire est un petit peu différent, de 16h à 20h. Et le programme de demain, eh bien, rapidement, nous recevons les femmes sahraouies en lutte, et notamment Madame Omeina Mahmoud Abdel Salam, qui est la représentante du Front Polisario auprès de l'ONU et en Suisse. Et puis, il y aura également une projection courte à ce moment-là autour des camps. Donc, c'est Un désert trop petit. C'est une fiction participative qui fut tournée dans les camps de réfugiés sahraouis de Samra. Et le réalisateur sera également là, Franck Na. Et puis, nous allons parler avec une personne de Solidarité sans frontières. Ensuite, nous aurons deux sujets un petit peu particuliers. Une peintre, Huguette Genetti. Et ensuite, on parlera des chemtrails. Que c'est chemtrails. Mais ça, c'est dimanche, voilà. Donc à ce moment-là, tu pourras, et bien entendu, nous joindre ici à l'Almacène. C'est au 6 rue des Grottes, juste derrière la gare Cornavin. Voilà pour le programme de l'émission. Nous allons immédiatement commencer après peut-être un jingle. Allez, un petit jingle et puis on commence la première partie de cette émission radio. Si je l'ai dit ou pas, si tu souhaites questionner nos invités, rien de plus facile, eh bien une adresse info@libradio.org ou alors tu nous joins sur la page Facebook de l'émission La Comète à la Banane.
Les Sans-Culottides, festival socioculturel solidaire aux grottes, les 21, 22, 23 décembre. À tes risques et périls. Programme sur www.libradio.org.
Libre Radio, www.libradio.org. La radio qui n'annonce rien de bon.
Jamais.
Pour personne.
C'est bien, il fallait un tapis accueillant après ce jingle à tabac.
Tu voulais sucrer un jungle pareil, là, il y a tant de raisons, 8 ans de travail.
Alors, en fait, on va le dire, la musique, c'est dans on est très cinéphile à Libre Radio, c'est dans les nerfs à vif, voilà, avec De Niro et Nick Nolte. Et voilà, cette espèce d'empoignade entre un extolar et tout. Enfin, c'est un film qui est déjà Voilà, le jingle est adéquat pour le film en tout cas. Bienvenue Philippe Gindre.
Bonjour.
C'est un ravissement de te recevoir, d'autant plus que ça fait extrêmement longtemps et que tu reviens d'un long voyage au Brésil.
Ouais, pas aussi long que j'aurais voulu, mais c'était un super voyage. Ouais, c'était un voyage super intense.
Lorsqu'on voyage physiquement, c'est également pour voyager à l'intérieur et commettre ensuite des bouquins ?
Là, en l'occurrence, le prétexte, c'était ça, parce que j'ai dû demander un congé sans solde à mon boulot. Et puis, comme ça devient de plus en plus difficile à obtenir, parce que pour qu'on garde ton boulot frais, là, il faut vendre un rein de nos jours. Alors, j'ai prétendu ça, ouais, que je partais pour écrire un nouveau bouquin. Et puis, comme j'en avais déjà écrit, ben, ça paraissait crédible. Mais de fait, sur place, j'ai rien écrit du tout. Mais sûrement que j'ai fait de la matière, tu penses bien.
J'imagine. Et est-ce qu'on est conscient quand on fait de la matière qu'on en fait ? Ou est-ce que finalement ça s'insinue par porosité comme ça et ça n'est que plus tard que tu te rends compte que tu as métabolisé tout ça et que du coup la matière pour un prochain roman est présente.
Ouais, c'est magique comme ça se passe. Hein. Je me demande bien le coup de la porosité, tu m'intéresses. Là, je sais qu'il y a eu deux ou trois moments pendant ce voyage où tout d'un coup j'ai ouvert les yeux et je me suis dit... Mon garçon, t'as jamais été aussi loin de ta maison. Je me doute bien qu'il restera quelque chose.
Ouais. Alors, ouais. Trois mois au Brésil, tu l'as dit. On en parle quand même quelques secondes, si t'as l'accord.
Ouais, volontiers. Ouais.
Ouais, parce que tu as dit que tu avais fait une partie vraiment très urbaine, donc à Sao Paulo,
ouais.
Cette immense mégapole, et une partie plus dans une sorte de retraite à la montagne.
Ouais, c'était ça. Ouais, j'étais chez des copains. Une espèce de petit refuge où ils proposent des treks là aux gens, et puis je pouvais avoir ma petite maison pour moi, et puis j'étais bien en retrait là dans la montagne, tout seul dans la jungle. C'était merveilleux d'être là, de se réveiller au milieu de ça, quoi, des perroquets qui braillent et des singes et de tout ce qu'on veut. J'avais une petite VV Cox, c'était un vrai bonheur. C'est pas là tout d'un coup tu enfin moi qui suis pas un grand voyageur, quoi, je suis d'une famille où ils voyagent volontiers, ouais, moi je suis pas un grand voyageur, mais là en l'occurrence, qu'est-ce que t'as l'impression d'être dedans, quoi, quand tu vas faire tes courses au premier bled à 2 heures de route dans ta coccinelle sur des chemins en terre battue, et puis que si jamais il pleut tu reviendras pas tellement les routes sont défoncées, tout ça, tu ouais, t'es dans le truc, quoi.
Ouais, c'est, j'imagine, cool. Terre de contraste, le Brésil, et il fallait justement que tu comprendre aussi là où tu étais, avoir ce contraste-là, faire un moment vraiment extrêmement urbain, un moment totalement pas urbain.
C'était fou l'expérience, ça, pour moi aussi, parce que je flippe un peu en ville, j'ai peur quand j'ai pas d'accès à la campagne rapidement, parce que j'ai vraiment besoin de ça pour me ressourcer, juste pour vivre. Ouais. Les gens, ils doivent des fois se reconnecter à la nature, moi j'ai pas besoin, je suis connecté à ce truc-là. Mais là, c'était au contraire, c'était un challenge de rester coincé dans cette ville qui est tellement énorme que va pas t'imaginer que tu puisses en une après-midi aller cueillir des petites fleurs, quoi, ou alors tu vas les piquer dans un parc, quoi.
Oui, absolument. L'immersion totale, ça te permet, j'imagine, de t'imprégner au maximum de tout ce qui s'y est passé, ce qui fait que tes 3 mois réels sont dans ton esprit beaucoup plus longs.
Ouais, pour moi, ouais, c'était très très fort. Là, je reviens et puis j'ai un peu le syndrome de une copine réalisatrice qui part souvent, qui me dit ouais, c'est le syndrome du tout est trop petit, quoi. Tu reviens là, t'es, la nature est trop petite, la ville est trop petite, tes amis sont trop petits, tout est trop petit.
Les vices et les vertus de la ville, les vices et vertus de la montagne. En quelques mots comme ça, qu'est-ce que tu... C'est à brûle pour point ce que je te demande. Donc évidemment, c'est pas super sympa dans le sens où effectivement on aurait plus envie d'être totalement apaisé. J'imagine que tu es encore à moitié là-bas. Mais s'il fallait que tu, comme ça, ce que tu as retenu comme problématique et comme chose extrêmement vertueuse, lesquelles seraient-elles ?
La ville, évidemment, il va y avoir la culture, quoi. C'est vrai. C'est cool d'avoir accès à ça, à la musique, aux bouquins, à tout ce qu'il y a là. São Paulo, c'est tellement, tellement gigantesque, c'est drôle de voir ce que les gens développent là. Non, c'est un petit peu différent avec les. Tout le monde a ça dans sa voiture pour savoir où tu es.
Un
GPS, merci. Je suis de l'ancien temps.
C'est
drôle parce que c'est une info que les gens se donnent immédiatement en arrivant. T'es passé par où, t'as pris quel chemin, t'es machin. Et là, tu sens qu'il y a un truc sapiens. Là, il y a une question de survie dans ces villes. Savoir comment tu te déplaces d'un endroit à l'autre. Les gens. Enfin, je trouve que partout, c'est comme ça. Les gens, ils sont plus cool à la campagne. Ils sont plus sympas, ils sont plus accueillants, ils ont plus le temps, ils sont plus curieux. Je sais pas, y a la rencontre est sûrement vite plus intense. Mais tout est bon, quoi.
S'il fallait faire un bilan de ton voyage là-bas, est-ce que tu te sentirais désormais plus urbain, rural, ou vraiment justement une sorte de, le mot m'échappe maintenant, mais de convergence de ces deux notions.
Ces temps, je suis complètement dans ces notions un peu taoïstes, tout est son contraire.
Et puis, ce que je voulais te demander par rapport justement à la ville et à la campagne et à l'attitude des gens, est-ce que selon toi, cette proximité devient en ville, quand elle est portée à son extrême, devient quelque chose de problématique, alors que justement à la campagne, cette distance permet de décider le moment où on rencontre la personne et du coup nous rend plus disponibles. Est-ce qu'il y a un peu de ça ?
Tu vois ça ? On laisse crever les gens sur le trottoir. Enfin, tu passes à côté de gens qui sont en train de crever de froid, crever de maladie, crever de tout ça, et tu passes tout droit. Là, évidemment, il y a un type qui marche sur une route, et au milieu de rien, tu t'arrêtes, quoi. T'es en bagnole, tu t'arrêtes, tu lui demandes si tu peux le poser quelque part, si tu peux l'accompagner, bien sûr.
Et on constate également des contrastes extrêmes dans la ville, entre peut-être justement des quartiers aisés et des quartiers favelas. Il y a, Sao Paulo, il y a une favela, Sao.
Ouais, bien sûr. Tu t'y risques pas en tant que petit blanc, là, ouais. Comme ça, quoi. Mais bien sûr, ce que je constatais là, quand même, au Brésil, à Sao Paulo, c'est entre les couches sociales. Alors, sûrement que le Brésil, il y a une au niveau du racisme comme ça, c'est sûrement là que ça se passe le mieux sur la planète quand même. C'est pas d'accord. Idéal, mais quand même ça se passe le mieux. Il y a un truc historique qui fait que les Portugais qui sont arrivés là-bas, ils n'étaient pas assez nombreux pour venir coloniser en famille. Donc même l'Église les incitait à copuler avec les locaux. Et en plus, ils n'ont pas extradé les pires, parce que les Portugais, ils avaient un rapport tellement névrotique avec la religion que tu te faisais plus facilement expulser et on te balançait là-bas.
Si on évangélisait,
c'est ça.
Donc on prenait des gens pieux.
Non, mais on prenait. Alors, au contraire des États-Unis ou de l'Amérique hispanophone, où là, on envoyait vraiment la dernière des racailles, ouais. Là, on t'envoyait plus facilement si tu avais juré sur le nom d'un saint que si tu avais décimé un village. Ouais, donc, peut-être que les gens étaient un petit peu plus doux au départ, c'est possible. En tout cas, il y a un truc d'intégration qui s'est mieux passé. Tu vois beaucoup, beaucoup de groupes multiethniques dans la rue. Après, il ne faut pas rêver. Évidemment, on est d'accord, il y a tout ce truc social très, très fort. Il y a la domesticité, c'est encore vraiment un truc de... Il y a des relents d'esclavage là qui sont moches à voir. Et puis, effectivement, les bonnes et les sont plutôt plus foncées que les autres, comme ça, quoi. Il faut quand même admettre ça. Mais tu vois ce truc dans la rue où tu vois beaucoup de groupes multiethniques. Et franchement, on ne voit pas ça chez nous. On est à Genève, on voit plein d'étrangers, c'est super cool. Mais tu vois des groupes de noirs, tu vois des groupes de métis, tu vois des groupes de blancs, et tu ne vois pas vraiment de groupes mélangés. Et ça, tu le vois à São Paulo, tu en vois même beaucoup.
Intéressant du point de vue postcolonial. Ouais. C'est vrai que c'est effectivement un pays un petit peu singulier également pour ça.
Le Japon, là, c'est incroyable. Ouais. C'est la plus grosse communauté japonaise hors Japon. Ah, et là, ouais. Tout d'un coup, tu vois des groupes, des couples où il y a un noir et une japonaise, puis ça te fait juste... Ah, tiens, en fait, j'ai jamais vu ça.
Hein. Ah, c'est drôle, ouais, ouais. C'est excellent. Dernière petite question sur le Brésil, et puis ensuite, on reviendra évidemment à ton travail d'écrivain. Veux-tu t'exprimer ou aurais-tu envie de dire quelques mots par rapport à cette élection ? Parce qu'effectivement, on en avait parlé un petit peu lors d'un autre entretien avec Renata qui est parmi nous. Voilà, Bolsonaro, cette élection,
c'est douloureux, quoi.
J'imagine. Et puis c'est vrai que c'est encore assez récent, donc on s'en est peut-être pas encore remis, mais je voulais savoir si tu avais une position par rapport à ça ou envie d'une expression.
Ma position, c'était bien tout sauf ça. Alors, je dis pas qu'ils ont pas déconné, le Parti du Travail, bien sûr, ils ont déconné, c'est sûr. Mais là, il y en avait quand même un qui était nettement pire que les autres. Ça, l'histoire. Ouais. Je veux dire, déjà, se revendiquer le Trump brésilien, il faut avoir une certaine assise pour avoir envie de revendiquer ça. Mais là, vraiment, écologiquement, ça va être un cataclysme. Socialement aussi, évidemment. Ouais, ça craint. Alors, on mise beaucoup sur les polarités. Est-ce que ça va déclencher de bons ? Ouais, est-ce que ça va déranger, c'est clair. Mais est-ce que ça va déclencher de bons par opposition ? Et là, les gens se mobilisent. L'espoir, il est là. Quoi. Il est là. C'est que ça fout un pied au cul l'autre côté.
Donc voilà, comme tu le dis, on peut redire qu'une mobilisation existe, même d'ici. Nous, on a effectivement également relayé des associations.
Bien sûr.
Mais on sait qu'au Brésil, des manifestations ont cours et qu'effectivement, les personnes, comme tu l'as dit, par réaction, se solidarisent et puis donnent peut-être lieu à des solidarités.
Il y en a beaucoup, ça lutte. Et je pense qu'il y a même un joli truc qui se passe. Jusque-là, tu voyais les gens être fiers, par exemple, de leur africanitude, et alors que les Indiens étaient toujours complètement déniés. Et là, tu as l'impression que ça bouge. Tu as l'impression tout d'un coup qu'il y a cette conscience de l'âme indienne qui est tellement puissante en plus.
Pourrait-il, je te demande ça à toi parce que tu es écrivain, pourrait-il surgir au Brésil ce qui avait surgi à l'époque concernant le concept de négritude avec Aimé Césaire et Leopold César Senghor, c'est-à-dire une forme de, justement de culture ancestrale qui se réveille et qui se révèle.
Tu vois, je pense que tout d'un coup on peut reconnaître ça et puis essayer de sauver ça. Là, il se passait un truc vraiment vraiment grave, un tel déni de voilà, que les gens étaient méprisés, et on arrivait à des trucs d'auto-mépris. Par exemple, je sais pas, il y avait des groupes qui pouvaient, en acquérant le statut de natif, bénéficier de droits supplémentaires comme exploiter le bois, etc. Incroyable. Mais qui refusaient leur statut tellement ils avaient honte de passer pour des Indiens. Etc. Enfin, je veux dire, vraiment, le truc est allé très, très, très loin.
Ok, ouais, tu me l'apprends, je ne savais pas qu'il y avait un statut particulier pour les natifs et qu'il y avait cette forme d'imposture, enfin de...
Ouais, je crois qu'il y a toujours ça. Par exemple, si, avec le cas de l'Australie où on est en train de partir, mais le cas de l'Australie où il y avait les pendant la guerre des je sais plus laquelle, tiens, Malouine peut-être, il y avait des soldats américains qui étaient là en faction, et les Noirs étaient super surpris d'être très bien accueillis chez les fermiers blancs, de pouvoir participer aux fêtes, etc. Alors que c'était évidemment pas le cas chez eux. Et c'était le cas, ils traitaient plutôt bien les Noirs, par contre, ils traitaient abominablement bien les Aborigènes, quoi. Et je crois qu'il y a un truc avec les natifs. Je pense que quand tu spolies le pays de quelqu'un, eh ben, il faut vraiment que tu t'arranges avec ta conscience et donc que tu le dénigres et que tu réduises à néant.
Absolument. Allez, venons-en au livre. Alors, Véronique ta mère, par Philippe Gindre, paru aux éditions Des Sauvages. La parution, elle est toute récente, mais enfin, elle a quelques mois maintenant, mais tu étais loin, donc on peut dire que c'était un petit peu suspendu.
Exactement, merci. Voilà.
Aux éditions, donc c'est ton troisième ouvrage. Nous étions rencontrés déjà pour ce magnifique livre Demain ça vient, qui avait donné lieu à plein de choses autour qui étaient fantastiques.
Bah, notamment une super rencontre avec la comète, quoi. Ça avait été un super départ et les premiers concerts, ça avait été avec vous, c'était tellement cool.
Voilà, mais il y avait cette histoire d'un pied dans la fiction, un pied dans la réalité. Ouais. Si je lis le début, la quatrième de couve concernant Véronique Tamer, alors les cinq préceptes selon Véronique, il y en a certains. Avant de les citer même, c'est pas si court. Hein. Voudrait-on dire que Véronique est une sainte ? Parce que justement, ce qu'elle va dire après, c'est vraiment aux antipodes de la sainteté. Ouais. Mais je voulais venir sur ce point-là, parce qu'effectivement, la sainteté, c'est aussi un petit peu rationnel et un petit peu irrationnel. Alors, est-ce que ce livre est à l'image de Demain ça vient, un pied dans la réalité et un pied dans la fiction ?
Un
roman est une fiction, même.
Un orteil dans la fiction et le reste dans la réalité, c'est ouais, ça ouais, 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 ouais.
Okay. Non, donc on reste quand même sur ce canevas-là, disons, pourrait-on dire.
Ouais, ouais, ouais. C'est beaucoup la réalité quand même.
Okay. Alors, on va lire les cinq préceptes selon Véronique. Fumer beaucoup, déconsidérer toute forme d'autorité, vénérer le rock'n'roll, aller aussi souvent que possible à la rivière et fumer encore plus. Un étonnant mode d'emploi que le narrateur n'aura de cesse de mettre en pratique, avec un sens singulier de la narration, un humour rock et une inventivité stylistique remarquable, ce roman dessine le portrait ambigu d'un improbable maître zen, un très étonnant roman d'apprentissage centré sur la relation d'un garçon allumé avec sa tante incendiaire. Quel mélange !
Ouais.
Alors comment est venue cette idée, un petit peu quand même pour le moins singulière, de faire rencontrer un garçon allumé avec une tante incendiaire?
Bon, c'était vraiment ma tante Véronique. Pour moi, c'était une sainte. Je ne sais pas très bien comment le truc a commencé. Moi, j'avais l'impression, en tant que gosse, d'évoluer dans un monde d'ennemis. Le monde des adultes, l'école, etc. Un espèce d'instinct de prémonition qu'on nous mentait, qu'on nous racontait pas la vérité, parce que je voyais ce qui déconnait dans le monde, enfin je voyais qu'il y avait plein de choses qui allaient pas, et puis dont on me parlait pas à l'école ou même que mes parents déniaient, etc. Véronique, elle c'est bien ou c'est, enfin là le jugement est pas là-dessus, elle me racontait tout, quoi, elle m'expliquait tout. Elle m'expliquait la guerre en Afghanistan, elle m'expliquait ce que ça induisait de coups tordus, voilà, au niveau des États, au niveau des gouvernements, au niveau des entreprises, au niveau de tout ça. Elle validait complètement ma colère et ma révolte instinctive. Elle la validait complètement. Et je pouvais tout lui raconter, tout passait. Je me souviens d'une fois où j'ai trouvé un porte-monnaie par terre et avec un pote, et on devait avoir, tu vois, 7 ans, 8 ans. Et puis, on a regardé ça, qu'est-ce qu'on fait, machin. On a piqué, là, il y avait un billet de 50 balles, c'était énorme. Puis on a balancé le portefeuille dans une poubelle. Et j'ai raconté ça à ma tante. Je dis, écoute, on a fait ça, tu vois, on a trouvé ce machin. Il y a un petit con, il y avait sûrement des cartes de crédit, ça se deal. Au moins, ramener la carte de crédit. Enfin, voilà, elle était vraiment comme ça. Tout était. Elle te donnait tout quand j'avais le droit d'aller chez elle parce qu'elle habitait chez ma grand-mère. Ma mère, c'était difficile pour elle et mes parents de me laisser fréquenter ma tante parce que.
Évidemment.
Vous pouvez vraiment tout se passer. Évidemment. Et elle faisait tout pour toi. Toi, tu t'étais devant la télé et puis elle t'amenait à bouffer, machin. C'était merveilleux. Et alors, évidemment, dès qu'elle a eu l'occasion de me faire fumer mon premier pétard à 11 ans et quart, elle a pas hésité deux secondes. Et voilà, comme j'étais fan de John Lennon, elle m'a attendu ça en disant « Tiens, goûte, c'est ce qui fume John Lennon. » Et voilà.
D'accord.
Ouais, c'était ça, les 100 préceptes selon Véronique. Ouais. Moi, j'ai mis très longtemps à comprendre que j'étais sous influence et puis je suis toujours pas persuadé que c'était le cas.
Oui, ou alors si c'était une influence consentie, lucide et distanciée, pourquoi pas. Enfin, du coup, ça n'est plus vraiment une influence, c'est plutôt, disons, une colorisation ou enfin tu vois ce que je veux dire,
ouais,
une sorte de...
ouais. Pendant longtemps je me suis demandé si elle avait bousillé ma vie en ayant ouvert tellement de champs des possibles, tu vois, ou si elle m'a sauvé d'un cancer à la Fritzhorn, Mars.
C'était la question que je voulais te poser. Qu'en tires-tu de ce retour en arrière au sein de ce livre, justement? Est-ce que, selon toi, c'est quelque chose qui a embelli ta vie, qui l'a compliqué, qui l'a durci ou quoi?
Ça a compliqué. Et puis, mais ça fait le monde plus grand. Ça fait le monde plus vaste et plus intéressant. Et voilà, j'en retirais des tonnes de super bénéfices. Je veux dire, auprès de tous mes potes, c'était vraiment cool d'avoir une tante chez qui aller fumer des pétards quand on gâtait l'école, tu vois. Je veux dire,
c'était clair.
La classe.
Alors, ce livre pour toi, qu'est-ce que c'est? C'est une catharsis? C'est un hommage? C'est un souvenir? C'est un petit peu détroit?
Bravo. Rien à ajouter.
Okay. Mais c'est-à-dire que pour le travail d'écriture là-dedans, comment se passe-t-il? Est-ce que d'abord il faut se remémorer tout ce qui s'est passé, après il faut filtrer tout ça, et puis après il faut mettre ça quand même en phrase. C'est comment?
Ouais, il y a eu des moments douloureux. L'idée au départ, c'était, j'ai entendu un auteur qui disait ça, j'ai des filets, puis je regarde ce qui revient, et puis c'était ça au départ. Et puis ça venait sur des portraits de gens, voilà, des gens... plutôt asociaux, des copains, des copines que j'ai eus et des gens comme ça, dont j'avais commencé à dresser des portraits. Et puis, alors que j'ai plutôt beaucoup de copines, il y avait assez peu de filles. Et tout d'un coup, Véronique, elle s'est imposée, elle revenait plusieurs fois. J'ai mis très longtemps à être erré un peu là-dedans, dans ces textes. Et puis tout d'un coup, je me suis dit, bon d'accord, elle venait de mourir. Je me suis dit, ok, je dois faire ce travail-là avant de pouvoir faire le reste. Je dois pouvoir parler d'elle et de la relation et de ce qui s'est passé entre nous parce que voilà, c'est pas un secret. Je veux dire, c'est plutôt dans la fin du livre, mais on nique pas la fin en racontant ça. Il y a un moment où elle m'a, comment on dit, renié. Quand j'ai arrêté de fumer des joints, elle m'a renié. Ouais, elle était très fâchée. C'était vraiment une religion pour elle.
Donc là, il y a quand même de la rupture qui apparaît à ce moment-là.
D'accord. Ouais.
C'est une question pour tout à l'heure, mais souhaiterais-tu nous lire quelques fragments sélectionnés par toi? Si c'est le cas, eh bien, pense-y. Et puis nous, on serait ravis, en tout cas, que tu le fasses. Mais
je le fais volontiers, oui. Alors, très bien sûr.
Alors, avant cela, je voulais encore t'interroger. Alors, déjà, sachez pour les personnes qui sont autour de nous que les micros sont ouverts, donc si une question surgirait, eh bien, pas de problème. Je regarde aussi un petit peu sur nos petits trucs parce qu'il y a des messages qui arrivent. Je voulais savoir, voilà, c'est le troisième livre tout le temps aux éditions des Sauvages. Mmh. Quel est le rôle de l'éditeur dans le livre? Est-ce qu'il se confine à la forme ou est-ce qu'à un moment donné, quand on en est au troisième récit, eh bien, des discussions en cours et de se dire, mais tiens, est-ce qu'il y aurait un petit peu du livre précédent dans celui-là ou est-ce que dans ce livre-là, tu partirais complètement ailleurs? Est-ce qu'il y a quelque chose qui se passe avec un éditeur avec lequel on a une relation privilégiée?
Valérie Solano, qui est l'éditrice, c'est vraiment quelqu'un avec qui je m'entends super bien, qui fait un super boulot, qui a presque monté sa maison d'édition sur le premier bouquin que je publiais. Elle quittait les éditions Zoé à ce moment-là. Mon texte, il avait été refusé aux éditions Zoé. Elle était partie avec le texte sous le bras en disant, voilà, je monte ma maison d'édition, est-ce que ça t'intéresse que je te publie là? Donc c'est garantit qu'elle aime ce que je fais et qu'elle sait bien me lire. C'est vraiment cool. Moi, je ne suis pas quelqu'un qui bosse avec son éditeur, c'est-à-dire qui lui soumet des trucs en disant qu'est-ce que tu... J'arrive avec un truc que je trouve fini et puis elle me dit encore deux ou trois trucs et puis j'accepte. Après, je rebosse. Mais je ne bosse pas en collaboration avec elle comme il y a des auteurs qui font. Ouais. Celui-ci, il a été, je ne sais pas, c'était le plus dur. Et j'espère que c'est tout le contraire qui se ressent à la lecture. J'espère qu'on se marre surtout, qu'on rigole beaucoup, parce que je crois qu'il est drôle. Et puis qu'il y a une certaine légèreté, même pour parler de trucs durs de temps en temps. Mais celui-là, ça a été le plus difficile, ouais. Et moi, j'avais vraiment l'impression qu'il était terminé. Et puis elle m'a dit, non, tu il n'est pas terminé et tu la couvres. Tu la...
Non, mais c'est intéressant.
Tu la couvres, quoi. Tu fais les choses à son avantage et à sa faveur. Non, il faut que tu ailles au bout. Et j'ai essayé de faire ça.
Alors, justement, parce que, voilà, une chose qui me touche également, que j'ai envie de te livrer comme ça. Un livre, c'est toujours se mettre un petit peu à nu, quand même, soi-même. Là, il y a également le fait de mettre à nu quelqu'un d'autre qui t'est extrêmement proche, ouais, et qu'on va reconnaître. Ça, c'est une douleur, ça, c'est un... Qu'est-ce que c'est, ça?
J'ai attendu que ma tante meure. J'ai pas attendu, mais ça a été un peu le déclencheur. Elle est morte, alors je vais écrire. Je flippais beaucoup pour ma cousine, sa fille, qui est très présente dans le bouquin, et puis qui est ma cousine intime, qui est presque une frangine, que j'aime vraiment fort. Et j'avais peur que ça soit dur pour elle, parce que c'était compliqué pour elle, évidemment, la mort de sa mère, mais sûrement très compliqué, parce que Véronique, c'était une figure. Une fois, je lui ai dit, tu sais, des fois, j'arrive quelque part, et puis tout d'un coup, les gens comprennent que je suis le neveu de Véronique, et puis ils me regardent en se disant, t'es le neveu de Véronique.
J'imagine.
Et elle m'a répondu, ouais, imagine, moi, c'est ma mère. Voilà, c'était pour elle, ça me faisait du souci, et même pour les petits-enfants de Véronique, ouais, c'était... Mais ça, auprès d'eux, c'est très bien passé. C'est beaucoup plus mal passé auprès de ma maman, que j'aime très fort aussi. Mais je crois qu'elle n'a pas pu le terminer. Alors que c'est dommage, parce qu'à la fin est plutôt à son avantage. Ouais. Mais elle m'a dit, ouais, non, j'ai eu l'impression de m'être fait spolier deux gosses sur trois par, par ma frangine. Et je crois que c'était dur pour elle. Et moi, j'en ai un peu assez de faire des sales coups à mes parents. C'est vrai, là, le dernier bouquin, tu vois, quand j'ai fait la truc d'ouverture, ah, tu t'étais pété la jambe là, ce soir-là, t'avais pas pu venir à la à la truc, mais j'avais dû confier la lecture à un comédien vu qu'il y avait un disque avec et puis que je jouais et puis que voilà le groupe, et puis j'ai pas eu le temps de regarder ce que le comédien qui était un copain il avait choisi. Je m'étais dit ok, pas de souci machin, et il avait repris que les trucs de que les scènes de cul, tu vois, et puis on avait tout droit un peu sévère. J'étais assis entre ma maman et mon papa là, pendant qu'ils étaient en train de dire ces trucs. Je dis non, mais ça suffit, j'arrête de faire ça à mes parents maintenant, ça va.
Mais justement, parce que moi je voulais te demander les retours, puisque le livre est paru il y a déjà quelques mois. Alors évidemment, les premiers retours, ceux de la famille, sont peut-être les plus durs, mais j'imagine que tu as déjà eu d'autres retours, ouais. Et là tu as ébauché ça, mais voilà, ça continue encore. Et quels sont-ils,
ouais,
les retours?
C'est super joli, c'est long dans le temps, c'est, ouais, chouette, parce que les gens m'en parlent longtemps de ce bouquin. C'est ce qui change par rapport aux autres. Ouais, ils en parlent longtemps et ils sont touchés, et moi je crois que j'ai commencé à écrire pour ça, puis parce que encore, j'avais toujours l'impression d'être en sous-marin, tu vois, de pas pouvoir donner une parcelle d'authenticité de moi à cette société, parce qu'on allait me foutre à l'asile, quoi. D'ailleurs, c'est ce qu'ils ont fait, hein.
Ouais.
Mais voilà, je là, c'est chouette. Les retours, ils sont beaux, et y compris de gens. Tu vois, je me suis à mi-temps à la bibliothèque. Attends, j'ai une vieille dame, là, t'es une vieille Nadine de Rothschild qui est arrivée émue aux larmes, là, avec son bouquin. C'est drôle de voir ce que les gens supportent, en fait. Alors, peut-être qu'ils imaginent que c'est de la fiction, puis du coup, ça, ça passe mieux. Ouais. Mais c'est joli de voir ce que les gens peuvent entendre, quand même. Mmh.
Eh bien, dis donc, parce que moi, je me dis, je suis éditeur, déjà le titre, je me dis, ouais, Véronique, ta mère, est-ce que tu...
Oui, alors ça, elle n'était pas enchantée, hein.
Ah,
moi, j'ai insisté donc, un peu. Okay. Non, d'accord, le jeu de mots, il est potache, mais vraiment, il est là pour quelque chose.
Je pense que c'est ça qui a fait que c'est passé.
Ouais.
C'est que derrière, il y a matière.
Ouais.
Ok. Alors, justement, cette matière, voudrais-tu nous en lire quelques
extraits? Ouais, volontiers.
Ah, c'est chouette. Je te remercie beaucoup, en tout cas. Nos prochains invités sont déjà là, on peut l'annoncer, donc nous en parlerons tout à l'heure. Bienvenue, d'ores et déjà.
Je vous lis un petit peu du début parce que ça présente le personnage. Le livre, il est construit, on avance en âge, ça commence quand j'ai 5 ou 6 ans et puis ça se termine là, à 40 ans, et puis de temps en temps ça revient sur quelques trucs. Voilà, Novembre 1981, 8 ans. Incroyable. Ma cousine Nathalie n'est pas obligée d'aller à l'école. La semaine dernière, le directeur de son collège a téléphoné. J'étais juste à côté. Véronique me faisait des grimaces pour me faire rigoler tout en parlant dans le combiné. Absolument, Votre Altesse, mais je comprends pas. Pourquoi vous réclamez des mots d'excuses ou cris aux parents si c'est pour les rappeler ensuite ? Oui, volontiers, à la prochaine. Salutations à madame, santé, bonheur, sexe et chaleur. Elle m'a expliqué. C'était le directeur d'école de Nathalie qui appelait pour s'assurer que c'était bien elle qui avait écrit cette excuse permanente. Merci de dispenser ma fille Nathalie de suivre les cours aussi souvent qu'elle le souhaitera. Je suis éberlué quand j'entends ce genre de truc. Les choses se passent pas du tout de cette façon chez moi. On pourrait se demander si ma mère et ma tante sont vraiment sœurs. Ma cousine a 15 ans, je n'en ai que 8. Mais depuis déjà presque une année, je prends le bus tout seul pour descendre en ville, deux fois par semaine, afin de me rendre au cours de piano et de solfège. Pour rentrer le mardi soir, ma mère et mon père viennent me chercher. Le mercredi, je vais chez ma grand-mère qui n'habite pas très loin, à la rue du Mont-Sion. Je dors chez elle et j'y reste jusqu'au jeudi en fin de journée. Mon père passe me prendre en rentrant du boulot. Donc deux soirs par semaine, je rentre rapidement de l'école. À la maison, j'échange mon cartable contre mes affaires de musique et je cours jusqu'à l'arrêt de bus, tout proche. Il faut faire un signe au conducteur pour qu'il s'arrête. Acheter un ticket. Le trajet dure un peu moins d'une demi-heure jusqu'au terminus. Ensuite, prendre le tram seulement pour deux arrêts. La première fois, ma mère m'a accompagné. Elle m'a rendu attentif à quelques points de repère tout au long du parcours. Le lendemain, je l'ai refait tout seul, pas de problème. Si ce n'est que j'ai pris la correspondance dans le mauvais sens. Difficile d'imaginer qu'on puisse être aussi stupide. Ce qui s'est passé, c'est que j'étais en train de me diriger vers l'arrêt quand un tram est arrivé. J'ai bien vu qu'il n'allait pas dans la même direction que la veille, et j'ai vu aussi que j'étais pas du bon côté des voies. Mais il fallait se décider rapidement, j'ai paniqué. Peut-être qu'il allait repartir en marche arrière ou passer par un chemin différent. Ou va savoir, j'avais pas à me préoccuper du sens des choses. Je devais seulement suivre la consigne, monter ici et descendre après deux arrêts. C'est ce que j'ai fait. Et j'ai débarqué dans un autre monde. Un endroit où j'étais jamais venu, rien à voir avec rien. J'ai cherché, trouvé parmi les passants celui qui allait m'aider, un grand-papa. Comme je le lui ai demandé, il m'a accompagné où je devais aller. On a fait tout le chemin à pied, je suis arrivé à peine en retard à mon cours. Il m'a pas fallu longtemps pour comprendre. Les contrôles sont inexistants sur les lignes de campagne. Une fois en ville, je suis pas obligé de prendre de tram, j'ai presque aussi vite fait d'aller à pied. Donc je peux garder le fric pour me payer les bons becs au kiosque du terminus. Je l'ai fait des dizaines de fois, pas de souci. Jusqu'à hier. Je pensais à toute autre chose quand à l'avant-dernier arrêt, deux contrôleurs ont grimpé à bord du bus. J'ai vraiment flippé. Ça tournait autour de moi, je sentais le sang battre dans mes tempes. J'arrive plus très bien à me souvenir de ce qui s'est passé ensuite. Un moment, tandis que l'un notait mon nom et mon adresse dans son carnet de contravention, l'autre m'a demandé « Mais est-ce que tes parents te donnent de l'argent pour ton ticket ?» Puis, je suis en train de courir comme une balle de fusil dans la rue, en pleurant, hurlant et jurant tout ce que je sais. Je suis quand même allé à mon cours de solfège. 1000 ans plus tard, quand j'ai sonné chez ma grand-mère, c'est Véronique qui m'a ouvert la porte. À nouveau, j'ai senti les larmes me monter aux yeux. Après avoir été embrassé ma grand-mère, j'ai profité de ce qu'elle préparait à manger pour parler seul à seul avec Véronique. Elle m'a tout de suite dit de ne pas m'en faire, qu'on allait trouver une solution pour ne pas se laisser emmerder par des contrôleurs qui sont des abrutis, comme tout ce qui porte en uniforme. En fait, ceux-ci sont pires que les autres, parce qu'ils voudraient être flics ou colonels, mais ils sont trop bêtes, même pour ça. Nathalie en a même vu un cogné sur un noir parce qu'il avait essayé de s'enfuir en tirant la poignée du signal d'alarme, ce qui a déclenché l'ouverture de la porte. On peut faire ça ? Véronique m'a aussi assuré que j'avais eu bien raison de me payer des bonbons avec le fric du billet, que n'importe quel gosse qui l'aurait pas fait serait obligatoirement un futur contrôleur, ou quelque chose du genre. Après le repas, à nouveau dans la chambre, elle m'a expliqué. Il faudra que je fouille la boîte aux lettres ces prochains jours. Facile, mon père, c'est lui qui relève le courrier, rentre bien plus tard du travail que moi de l'école. Et j'arrive à glisser la main dans la fente de la boîte. Ce qu'il faut trouver, c'est une enveloppe avec le sigle des transports publics. Je la subtilise, la ramène à Véronique et elle payera l'amende. Par le souffle du grand esprit, au plus profond de la nuit de glace se révèle l'allié indéfectible. Il s'affiche de ta détresse, Fais sien tes ennemis, fils de pute, et annule la malédiction des ogres. Mais quelques jours plus tard, la lettre frappée du Sigmodine n'est toujours pas arrivée. Pourtant, le soir, mon père me fait venir au salon. Mauvais. Et effectivement, dans ton grave, n'y a-t-il pas quelque chose dont tu devrais me parler ? Incompréhensible. Comment peut-il savoir ? Coincé comme un rat. Alors, je lâche le morceau. Suite de quoi, mon père semble un peu décontenancé. Puis, il se reprend, ou plutôt s'emporte, et me passe un savon, une foutue engueulade. Ça dure si longtemps que je me demande s'il va pas bientôt avoir faim, soif, ou besoin d'aller pisser. Il finit enfin par se calmer. Avant de revenir au port, il se souvient encore de me demander, et c'est aussi toi qui as rayé ma voiture dans le garage avec le guidon de ton vélo.
Merci beaucoup.
Plaisir.
Philippe Gendre, Véronique Tamer, donc paru aux éditions Des Sauvages. Cette tante, cet allié, c'est un compagnon de route, indéfectible,
ouais.
C'est ça.
Ouais.
C'est la personne vers qui on va peut-être même se confier au moment où tout va mal, au moment des grandes peines.
Et tu vois qu'il trouve des solutions incroyables.
Et qu'il trouve toujours des solutions, ouais. Exactement. À un moment donné, comment ça se passe dans la famille ? Quand cet allié est là, ne prend-il pas trop de place ?
Oui, bien sûr. Bien sûr. Mes parents, ils devenaient dingues. Et c'était fou. Un jour, ma mère, elle m'a chopé avec un gros bout de shit à la maison. Là. Et puis, elle m'a demandé comment... Ah, je raconte ça dans le bouquin, bien sûr. Elle m'a demandé comment j'avais eu ça. Je ne pouvais pas lui dire, tu vois. C'est Véronique qui me file mon shit, là. Après, alors, j'ai raconté que j'étais allé l'acheter tout seul au jardin anglais. Seulement, évidemment, j'avais 13 ans et demi, tu vois. Ils ont flippé comme des malades. Quelques jours plus tard, après, ma mère, elle est revenue. Puis, elle m'a dit, bon, écoute, si vraiment tu veux du shit, c'est moi qui vais aller te l'acheter, là. Parce que je veux pas que tu ailles acheter ça au jardin anglais, blabla. Ouais, non, c'était compliqué pour eux, les pauvres choux. Quoi. Qu'est-ce que tu fais avec ça, non ? C'est ta sœur, tu peux pas empêcher un neveu de voir ça. Et en même temps, tu sais qu'elle elle va... Je veux dire, il n'y avait rien pour la raisonner. Jamais. Moi, quand j'étais tout môme, j'adorais ça. Tu te promenais en ville, elle ouvrait la fenêtre de la bagnole, elle insultait là, tout ce qu'il portait en uniforme. C'était incroyable. Tu passais la douane, elle ne demandait rien à déclarer. Elle disait, mon amour pour vous, elle essayait de l'embrasser.
Ça, on peut dire que ça, c'est constitutif de toi, de ta personnalité, de ce que tu es aujourd'hui.
Ouais, vraiment. Ouais. Une fois à la poste, elle était en train de filer un paquet, j'étais tout petit, je la tenais par la main, puis je sais pas, elle s'engueulait avec le mec, là, elle s'est retournée vers moi, elle m'a regardé, elle dit, celui-là, ça se voyait tout de suite qu'il voulait me faire chier. Et je me souviens que dans ma tête, je me suis dit, waouh, on a le droit de faire ça.
Ouais. Ça veut dire que finalement, à chaque pas que tu fais, eh bien, il y a un peu d'elle t'habite toujours.
En plus, là, depuis qu'elle est morte, le rock'n'roll me remonte, là, c'est quelque chose. Ouais.
Parce que finalement, vous avez quand même, il y a eu un moment de rupture, hein, tu l'as dit tout à l'heure, à un moment donné, tu étais détourné de son influence, en tout cas, c'est comme ça, j'imagine que tu as dû le percevoir.
Bien sûr.
Parce que quand on est un enfant, effectivement, c'est comment est-ce qu'on voit, est-ce qu'on sent qu'il y a entre la tante, le papa et la maman, ou d'autres personnes, un conflit, et qu'on en est le sujet
enfin, je pense qu'ils avaient du conflit bien avant ça, hein, parce que Elle a pris beaucoup de défonce, beaucoup d'héroïne, etc. Ouais. Mes parents, ils flippaient à mort pour ma cousine, qui était minus. Il y avait des scènes à la Pulp Fiction. Là, ils sont venus récupérer le bébé dans le berceau. Là, ça craignait. Et bien sûr, c'était compliqué les rapports, c'est sûr.
Peut-on dire qu'il y a, et laquelle, selon toi, une continuité avec justement ton roman précédent, Demain ça vient, et si c'est le cas, et ensuite, vers quoi est-ce que, comme ça, parce que finalement, là, tu es allé 3 mois au Brésil, on l'a dit, tu as été effectivement dans la ville, donc dans cette espèce d'urbanité extrêmement dense de Sao Paulo, avec eh bien, les vices et les vertus que l'on connaît, mais également en montagne, avec là, effectivement, une autre manière peut-être de voir la vie, et puis pourquoi pas également de s'enivrer d'une certaine manière. Ouais. Et voilà, ça, c'est quelque chose d'important quand même tout au long de, en tout cas, de Demain ça vient et de ce roman-ci. Est-ce que par la suite, c'est quelque chose qui va continuer d'habiter tes écrits ?
Enivrez-vous, tu veux dire ?
Ouais.
Tu es là-dessus ?
Ouais, je suis là-dessus. Ouais. En gros.
Ouais.
Je voulais pas le dire direct.
C'était
la périphrase.
C'était un gros morceau de ma vie, la défonce, l'héroïne, quoi. C'était un passage super intense, fort. Ouais. Je pense aussi que je l'ai beaucoup fait en hommage à Véronique. Enfin, je me souviens qu'il y avait pas de Une fois, je suis sorti d'un bar et puis j'ai entendu quelqu'un qui a dit « Putain, je déteste ce mec, c'est à cause de lui que Julien et David se défoncent. » Qui étaient des copains qui avaient 10 ans de plus que moi, quoi. C'était absurde d'entendre ça. Alors qu'évidemment, c'était le contraire, c'est eux qui m'avaient monté la dope. Mais je les accuse de rien du tout parce que j'attendais que ça. Je me souviens d'être gamin et de me réjouir de la première fois où j'allais prendre de la poudre. C'était inscrit sur... Et sûrement qu'il y avait un espèce d'hommage à ma tante. Enfin, mes héros, ils étaient passés par là. Il y avait ça sur le chemin et voilà. Maintenant, j'ai l'impression d'avoir perdu un temps énorme avec ça. Et en même temps, bah ça fait une jolie boucle avec ce qu'on racontait tout à l'heure. Ça m'a fait pas mal de matière, on est bien d'accord. Maintenant, la nostalgie de la mauvaise vie, ouais, elle est encore bien là, c'est sûr. En même temps, ça suffit de s'en faire une bannière, il va falloir passer à autre chose. Ouais. J'espère que je vais pouvoir écrire un prochain bouquin en parlant d'autre chose. Ouais.
D'accord, ah ouais, ok. Parce que voilà, j'ai bien conscience qu'il y a une part biographique dans chacun d'eux. Et le prochain également, là, tu as envie en même temps de te faire visiter autre chose.
Ouais, exactement. Okay. Tiens, l'expression est bonne. Parce que j'ai envie de quelque chose qui soit pour moi de la fiction. Et en même temps, j'imagine bien qu'il n'y a jamais de vraie fiction. Mais j'ai envie de me faire visiter autre chose, exactement.
Ok. Ouais. Alors, on arrive doucement au terme de l'entretien. Donc, si des questions surgissent, eh bien, il faut vous rapprocher de la table pour celles et ceux qui le souhaiteraient. J'aurais encore évidemment quelques questions à te poser, et notamment celle-ci. Lorsque, comme toi, on a quand même cette expérience, pourrait-on dire, radicale, ou en tout cas extrêmement dense, extrêmement intense, et dans laquelle souvent on y laisse des plumes. Alors, qu'est-ce qu'on retient de cela, là où tu en es aujourd'hui?
Bon, il y a des amis morts, c'est sûr, c'est un truc présent et c'est fort. Il y a eu cette rafale de mitraillettes là entre les maladies et tout ça, enfin tout ce qui est dû aussi à des comportements un peu radicaux, ouais. Ensuite, il y a juste que beaucoup de gens se sortent de ça, enfin qu'on peut aller loin dans des trucs bizarres et des chemins autres. Et puis c'est profitable à la société dans un sens super positif. C'est juste des expériences différentes et Dieu sait si on a besoin de ça. Il y a ce truc d'être à mesure, tu vois, d'avoir vécu une expérience dense. C'est la plus facile à faire, quoi. Elle est au coin de la rue, elle est là, elle est bonheur, elle a même quelque chose de confortable à quelque part. Et en même temps, il y a ce truc, c'est vrai, d'avoir vécu un gros truc qui fait que tu peux envisager d'autres gros trucs. Qui c'est qui disait qu'il y a deux sortes de mythomanes? Ceux qui n'ont rien vécu et puis qui s'inventent une vie, puis ceux qui ont vécu des trucs tellement gigantesques que quand ils inventent un truc, ils inventent un machin énorme parce qu'ils inventent à mesure. Ouais.
Okay. Selon toi, est-ce que, comme on l'a dit, une part biographique est présente de manière même intrinsèque et presque quasiment automatique et involontaire, j'aurais envie de dire, mais tu me démentis ici à tout moment. Hein.
Non, je ne démens pas.
Ok. Mais selon toi, est-ce que c'est important de se raconter lorsque l'on est justement, d'une certaine manière, un survivant? Tu vois, qu'on a pu, que la trajectoire a été complexe et délicate et difficile et dure, et qu'on s'en sort quand même. Est-ce que selon toi, c'est d'autant plus important de mettre des mots là-dessus et de se livrer, de se mettre à nu?
Pour les gens, parce que survivants, pas moi. Moi, ça va, j'ai fait les bords et machin. Et puis des survivants, j'en ai connu des tas qui sont morts. Tu vois, t'es survivant jusqu'au moment où tu lâches. mais raconter, ouais. Raconter les gens, raconter les trucs fous que tu vis, raconter. Enfin, j'aime ça, bien sûr. C'est ça qui m'intéresse, j'aime raconter.
Ouais. Alors, pour quelqu'un qui aime bien raconter, j'aimerais, puisque justement on arrive au terme de l'entretien, avant que des questions ne surgissent, je ne vois pas de main qui se lève, donc ça a l'air bien, ça veut dire qu'on a été relativement exhaustif. J'aurais voulu savoir, avant de recommander évidemment ton roman, et le précédent pour le moins, que moi j'ai tellement aimé, mais voilà, y a-t-il une littérature des livres qui, toi, t'ont habité? Je te demande ça parce que lorsque l'on parle de cette littérature qui est un petit peu un journal intime et un petit peu une fiction, et un petit peu, enfin, qui est à cheval un petit peu sur toutes ces choses-là, on connaît des romans d'ados qui ont été, en tout cas pour moi, très importants, comme L'Herbe Bleue, comme Christiane F. Voilà, ça, est-ce que ça, c'est une littérature qui t'a occupé, qui a occupé ton esprit à un moment donné, ou pas du tout?
Ouais, ça a marché. J'irais plutôt du côté de Adieu Gary Cooper, de Romain Gary, qui m'avait vraiment transporté ado. Et puis plus tard, John Fante. C'est un immigré italien, États-Unis, dans les années 50, qui vaut sûrement 5 Bukowski et 3 Hemingway. Et l'intensité, il est vraiment là-dedans. Et il raconte, et c'est intensité qui est forte. Je veux dire, l'expérience est tellement éloignée de ce que j'ai pu vivre comme ça, mais c'est ça, c'est l'intensité qui met quoi. John Fante, tout le monde va.
Bah moi, je me le note en tout cas.
Allez me
pour
demander
moi.
Ça ouais. en bibliothèque demain.
Ouais. Très bien, très bien. Ouais. Alors, eh bien, on arrive au terme justement de l'émission. Dis-moi, où trouve-t-on ce roman pour les personnes qui souhaiteraient l'acheter ?
Dans les librairies en Suisse, c'est facile. On peut, édition des Sauvages, Véronique Tamet, Philippe Jean. On peut le demander et l'obtenir partout. On ne l'obtient pas sur Internet, on l'obtient en librairie.
D'accord. Et puis sinon, on en trouve quelques mots sur le site des Éditions des Sauvages.
Oui, Éditions des Sauvages.
Je vais donner l'adresse mail, c'est éditionsdessauvages au pluriel, donc .ch en un mot.
SMS.
Ok, écoute Philippe Jean, je te remercie beaucoup. J'aurais envie de terminer par une petite question un petit peu rituelle ici à la radio. C'est, y aurait-il une question que je ne t'ai pas posée à laquelle tu aurais souhaité répondre ? Comme ça. Ou pas, un appel à lancer, un petit message.
Non, c'était vraiment cool. Moi, je veux te remercier toi pour le boulot que tu fais et pour le boulot que vous faites tous, la Comète. C'est vraiment, vraiment trop cool. Je vous aime fort.
Mais c'est pareil, c'est vraiment pareil, Philippe. Je te remercie beaucoup.
Merci pour tout.
Alors voilà, on s'arrête là pour aujourd'hui, puisque nos invités qui te suivent sont déjà parmi nous. Nous allons arrêter là pour ce premier entretien, si ça te va.
Au poil.
On y va comme ça. Alors, on fait une petite pause musicale et on revient juste derrière. D'ici, on va laisser peut-être deux chansons passer pour accueillir les personnes qui nous rejoignent. Et puis, on prendra l'antenne juste derrière. C'est parti.